Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes, une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bonjour à tous, bienvenue à l'écoute de ce numéro de Mélomanie, celui de la rentrée pour nous. J'espère que vous tous, fidèles ou nouveaux auditeurs de cette émission, avez pu prendre quelques vacances et vous reposer. Après un été calme pour les mélomanes et les musiciens, le mois de septembre va marquer le vrai retour de la musique dans les salles de concert, bien que ce soit encore au prix de nombreuses contraintes dues à une crise sanitaire dont nous tardons à sortir. Quoi qu'il en soit, il est temps que le spectacle vivant et ceux qui le font vivre retrouvent leur place dans la vie de la société. Ils vont avoir besoin de votre soutien et je suis certain que beaucoup d'entre vous sont impatients de le leur montrer. En ce qui nous concerne, c'est la principale raison d'être de cette émission et ce premier numéro de la saison va le prouver une fois de plus. J'ai le plaisir d'y retrouver mon ami Serge Chauzy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi. Et j'ai aussi le plaisir d'y recevoir Paul Arnaud Péjouan, notre invité d'honneur, cofondateur et co-directeur artistique de Piano Jacobin. Le festival fête ses 40 ans d'existence en cette année 2020. Il vient tout juste de commencer et il va se poursuivre jusqu'au 27 septembre avec une programmation réduite par rapport aux précédentes éditions, mais tout aussi alléchante et prestigieuse que de coutume. Nous allons en parler avec Paul Arnaud Péjouan en seconde partie d'émission. Pour l'instant, nous allons revenir sur les événements musicaux les plus récents. C'est parti pour notre rubrique « Retour arrière ».
Mélomanie, retour arrière.
Et nous allons d'abord revenir sur les concerts lectures donnés fin août à la Chapelle des Carmélites, les deux premiers de la bien nommée saison musique en dialogue aux Carmélites. Celui du 29 août était dédié à la famille Bach et celui du 30 à Hector Berlioz, à chaque fois avec une assistance aussi fournie que le permettaient les consignes sanitaires et la distanciation physique qui va avec. On va faire les choses dans l'ordre et on va parler pour commencer du concert Bach en famille. Nous y étions tous les deux, Serge Chauzy, et ça a été un bon moment avec des musiciens et un récitant plutôt inspiré. Rappelez-nous qui étaient les protagonistes de ce concert du 29 août.
Alors, il y avait d'abord les musiciens eux-mêmes. Hein. Donc, ce sont les musiciens d'un nouvel ensemble qui a pour nom Filigrane. Alors, c'est un ensemble à géométrie variable, il n'était que deux là, de cet ensemble. Il y avait le claveciniste Franck Marcon. Et Étienne Mangot, qui joue à la fois du violoncelle baroque et de la viole de gambe. Alors, lui, c'est un artiste bien connu à Toulouse, puisque c'est le violoncelle solo de l'orchestre Les Passions que dirige Jean-Marc Andrieux. Donc, c'est quelqu'un que l'on connaît bien. Et le concept original donc, de toute la série, il faut le dire, hein, c'est le concept de la discussion autour de la musique et de la musique. Donc, un mélange concert-lecture en quelque sorte. Mais chacun de ces concerts a sa personnalité, a sa spécificité. Ils ne sont pas tous identiques. Hein. Et là, en l'occurrence, c'était un concert qui était donc commenté par le comédien Laurent Montel et qui... utiliser des textes, divers textes, dont des lettres de Bach lui-même ou de sa famille, donc, et notamment des citations d'un livre célèbre, Bach en son temps, de Gilles Cantagrel, bien connu.
Éminent spécialiste de Bach.
Spécialiste de Bach. Et encore un autre livre de Marc Vignal, autre grand spécialiste, Les fils de Bach. Et donc, il était question non seulement de Jean-Sébastien, mais de ses quatre fils compositeurs. Il a quand même eu une descendance honorable et prestigieuse.
Ben, 20 enfants, bon, 9 ont survécu, mais...
Oui, oui.
Et donc, parmi les 9, beaucoup ont évidemment été musiciens et compositeurs pour certains. On peut citer les prénoms parce qu'ils ont des prénoms assez évocateurs, souvent.
Ah oui, 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 oui. Alors, il y a donc Wilhelm Friedemann, Karl-Philipp Emmanuel, et puis...
Johann Christoph Friedrich.
Johann Christoph Friedrich, donc toute une batterie. Johann Christian.
Voilà, donc, il y a beaucoup de Johann quelque chose.
Hein. Oui. Donc, le père perpétue sa mémoire. Hein. Et donc, c'est un concert un peu particulier, en ce sens qu'il était constitué d'une vingtaine d'extraits, de morceaux musicaux, et avec donc les textes dits par Laurent Montel, entre les divers morceaux.
Laurent Montel, ancien pensionnaire de la Comédie Française. Hein,
exactement. Alors, un comédien un peu particulier, avec une voix un peu tonitruante. D'ailleurs, il n'avait pas besoin de micro, de sonorisation. Donc, c'était tout à fait intéressant. Une voix que je me permettrais de qualifier de caméléonesque, puisqu'il passait de la douceur à la colère absolue, du murmure au cri. Donc, c'était tout
Un comédien peut lui aussi faire des variations, comme un musicien.
Exactement. Donc, très bien. Avec deux musiciens de grande qualité, hein. Je voudrais quand même rendre hommage à Étienne Mangot, qui passe avec une virtuosité, une aisance incroyable du violoncelle à la viole de gambe. Alors, ce sont des instruments cousins, certes, mais ce n'est pas le même instrument.
Il y a des différences quand même.
Il n'y a pas le même nombre de cordes, il y a des frettes sur l'un, pas sur l'autre. C'est vraiment très particulier. Et il faisait ça avec une aisance incroyable et une belle musicalité. C'est surtout ça qu'il faut souligner.
Eh bien, on va le retrouver tout de suite, Étienne Mangot, dans ses œuvres, en l'écoutant interpréter une pièce de Carl-Philippe Emmanuel Bach, la sonate pour violoncelle seul, WQ-142. La sonate pour violoncelle seule WQ-142 de Carl-Philippe Emmanuel Bach, jouée par Étienne Mangot, une œuvre qui n'était pas au programme du premier concert de la saison de musique en dialogue au Carmélite, mais qui vous donne un aperçu du talent de cet excellent violoncelliste. Et Serge Chosy, vous vouliez préciser une chose, un extrait des variations Goldberg a été joué.
L'aria, hein, simplement. Oui, ils ont joué cette aria, mais avec viol. Viol et clavecin. Donc ça, c'est un peu inhabituel, mais c'est tout à fait justifié dans l'œuvre de Bach. Bach n'a cessé de faire des transcriptions, et donc, très bien, on doit faire des transcriptions aussi avec l'œuvre de Bach. Et c'était très, très convaincant, ce duo sur les variations Goldberg.
Le lendemain, pour le deuxième concert de la saison, nous avons fait un saut de près d'un siècle dans le temps, en passant du baroque au romantique et de Bach et fils à Berlioz. Le concert avait été intitulé « Éternelle Estelle » et non pas « Éternelle Berlioz ». Qui était donc cette fameuse Estelle, Serge ?
Ah ah ! Alors là, on a appris beaucoup de choses. Il s'agit d'une certaine Estelle Fornier, qui a été le premier amour de Berlioz et son dernier amour. Alors c'est extrêmement touchant. Et d'ailleurs l'histoire qui a été mise en parole par M. Husneau, qui est vraiment un excellent littérateur, on peut dire, hein. Il a repris des extraits des mémoires de Berlioz, il a fait une espèce de chronique chronologique de la vie de Berlioz, qui était extrêmement bien faite. Et donc tout a tourné autour de cette fameuse Estelle. C'est en fait un secret qui a longtemps été enfoui, hein, et qui concerne tout à fait la vie intérieure du compositeur, puisque ce personnage a illuminé toute sa vie, et on ne le savait pas vraiment, on n'était pas très au courant, en tout cas je n'étais pas très au courant. Et donc c'est une jeune femme dont il est tombé amoureux étant adolescent, hein, et puis la vie les a séparés. Mais toute sa vie, pendant toute sa vie, Berlioz a gardé une espèce de passion pour elle, secrète. Et il s'est marié, il a divorcé, il a eu diverses aventures. On sait que la vie de Berlioz, c'est
un roman. Sa vie sentimentale a été, oui.
Un roman, mais même plus que sentimental. Quand on lit ses mémoires, on a l'impression de lire un roman policier. Il est enlevé par des brigands, enfin, dit-il.
C'est peut-être un peu romancé. Hein,
bon. Oui, certainement. Oui. Bah, il était romantique. Hein.
Oui, c'est ça.
C'est évident. Et à la fin de sa vie, il reprend contact avec cette fameuse Estelle et il essaie de renouer des liens avec elle. Alors je trouve ce retour comme ça extrêmement touchant. Ça m'évoque pour moi le fameux roman de Gustave Flaubert, L'éducation
sentimentale. Oui.
C'est frappant. Elle le repousse en quelque sorte, gentiment, mais elle lui dit que non, c'est trop tard, c'est terminé. Donc Y a
parce
vraiment...
qu'il la demande en mariage. Hein.
Ah
Il
oui,
la demande en
carrément,
mariage.
oui. Mais elle refuse, hein. Elle dit que c'est... Bon, c'est dépassé, ça appartient.
Notre chance est passée.
Voilà, exactement. Et donc ça a été extrêmement bien présenté et avec beaucoup de talent, par, d'une part le texte de Philippe Husneau et puis la manière de le déclamer par François Castaing, que l'on connaît bien à Toulouse en particulier. Il a beaucoup participé au concert de Rochemontès. Et puis,
oui, et puis qui a été longtemps producteur
à France Musique.
France Musique,
donc voilà.
Qui est un remarquable lecteur.
Oui, tout à fait. Voilà, donc on a suivi en quelque sorte la vie de Berlioz, du début à la fin, et tout cela, évidemment, en musique, puisqu'on a eu quelques extraits, d'abord de la Symphonie Fantastique, puisqu'on a appris là que le fameux thème de l'idée fixe, eh bien, c'est le thème d'Estelle. C'est à Estelle qu'il pensait lorsqu'il a composé ce fameux thème qui a été joué avec beaucoup de talent par la flûtiste que l'on connaît bien à Toulouse, qui est Sandrine Tilly. Mmh. Et vraiment, c'était très, très, très beau ce qu'elle a fait.
Flûtiste solo de l'Orchestre National du Capitole.
Oui, exactement. Alors, elle était accompagnée, si l'on peut dire, du violoncelle de Maïtané Sébastien, excellente violoncelliste, qui a fait un enregistrement tout à fait magnifique des suites de Bach, d'ailleurs, du guitariste Nicolas Lestoucois. Et donc, il y avait une chanteuse, puisque quand même l'essentiel de la partie musicale était vocale. Hein. Et donc, c'était la mezzo-soprane Sarah Lolland que l'on avait admirée dans une création à Toulouse qui était
L'annonce faite à Marie,
de Marc Bleuze, un opéra contemporain. Donc, et elle avait tout à fait impressionné. Et là, bon, sa voix possède une projection
très puissante,
impressionnante.
Oui,
hein,
oui,
dans
oui.
La chapelle des Carmélites, vraiment, elle remplissait toute la voûte. Et
donc, elle a chanté Les Nuits d'été.
Voilà, elle a chanté Les Nuits d'été, l'ensemble du recueil de six mélodies. Elle a chanté une mélodie de Berlioz qu'on n'entend pas très souvent, qui est La Captive, sur un poème de Victor Hugo. Donc, tout à fait touchant. Et enfin, un extrait des Troyens, Adieu, fière cité, donc avant la mort de Didon, donc ce fameux opéra d'après Virgile, opéra gigantesque, hein, en cinq actes, qui est d'ailleurs souvent donné en deux parties, et là on a eu ce petit extrait. Et la fin du concert était un retour au thème d'Estelle, avec toujours la flûtiste et ses compagnons.
Alors, il faut dire qu'évidemment, toutes ces œuvres ont été transcrites pour les trois instruments présents ce jour-là, donc la flûte, le violoncelle et la guitare.
Oui.
Berlioz était guitariste et flûtiste d'ailleurs. Enfin, il jouait du flageolet à l'époque, on appelait ça le flageolet.
Oui.
Mais bon, donc il faut saluer quand même la performance des musiciens qui ont eu beaucoup de mérite parce qu'il a fallu mettre ça en place en très peu de temps.
En très peu de temps, d'autant plus qu'il y a eu deux changements parmi les musiciens. Hein, deux musiciens du Sud se désister en quelque sorte et ont été remplacés au dernier moment. Donc bravo, hein, c'est vraiment un beau travail qu'ils ont fait. Il faut quand même rendre à César ce qui est à César. Les transcriptions pour ce trio ont été faites par Julien Costa, ce qui est quand même un beau travail qu'il a accompli là.
Oui, et très belle prestation des musiciens, de la chanteuse et du récitant. C'était très émouvant, parce que c'est une histoire quand même un peu triste, mais très féconde.
Ah, complètement. On voit ce que ça a permis à Berlioz de produire comme œuvre musicale. Et puis, disons qu'il y a eu un petit bis, hein, et à la fin, ils ont repris la Villanelle des Nuits d'été, où il est question de fraises, à la fin, des fraises des bois. Et là, de manière très amusante, François Castaing a joint sa voix à celle de Sarah Lolland, et ils ont fait un petit duo, donc c'était tout à fait touchant, là aussi.
Il est téméraire, hein, François Castaing.
Téméraire, oui, absolument.
Voilà pour ces deux premiers rendez-vous de musique en dialogue au Carmélite. J'en profite pour signaler que le prochain a lieu ce dimanche 13 septembre à 16h30 à la chapelle des Carmélites, bien sûr. Le pianiste Pascal Amoyel va y donner un concert qui a rempli le théâtre du Ranelagh à Paris pendant des semaines. C'est autant un spectacle qu'un concert d'ailleurs, très beau, très émouvant aussi, qui a pour titre Looking for Beethoven. Je vous conseille vivement d'aller le découvrir. Nous allons parler de la 41e édition de Piano Jacobin et des concerts à venir avec Paul Arnaud Péjoin dans quelques minutes. Le festival se déroule cette année jusqu'au 27 septembre. Il a déjà commencé. Il y a eu plusieurs concerts. Il devait y avoir en ouverture Stéphane Kovacevic. Et finalement, il n'a pas pu être présent. C'est Nicolas Sangelich qui l'a remplacé. Alors, Paul Arnaud, pourquoi Stéphane Kovacevic a dû déclarer forfait?
À cause des conséquences de la crise sanitaire et particulièrement du durcissement des règles britanniques, puisque il était pas tout à fait sûr que la quarantaine s'applique. Et puis, il a appris samedi dernier que la quarantaine s'appliquerait, à savoir qu'il n'aurait pas le droit de sortir de chez lui pendant 15 jours s'il venait à Toulouse. Je ne ferai pas de commentaires sur les gestions diverses et variées des crises sanitaires en Europe, mais je pense qu'il y a quand même un petit peu d'exagération parfois, et nos Britanniques, c'est le cas ici.
Donc c'est Nicolas Sanghelich qui l'a remplacé, avec un autre programme bien sûr. Qu'est-ce qu'il nous a joué, ce grand pianiste au répertoire extrêmement large ?
D'abord, je veux remercier Nicolas, c'est un ami personnel, c'est un ami personnel à Catherine et à moi, et c'est en plus pour moi, probablement dans sa génération, le plus grand pianiste français actuel. C'est une personnalité incroyable, avec une sonorité inouïe. Et je n'ai pas fait le compte, mais je crois que c'est la 8e fois qu'il vient au festival.
Ah oui, il est venu donc, très souvent.
Je n'ai pas fait le compte. Mais,
et à Toulouse en général. Ouais.
Et avec l'Orchestre du Capitole également. Bon, enfin, c'est bah, un...
Il sera là pendant la saison, d'ailleurs, de nouveau.
Hein, il sera là de nouveau pendant la saison.
Il joue un concerto de Beethoven, d'ailleurs.
Le 5e, je crois.
L'Empereur.
Ça sera intéressant.
Un petit concerto.
Non, mais c'est une personnalité incroyable, d'une grande générosité. Il connaît très bien Stéphane Kovacevic en plus, donc ils sont très liés très amicalement. Il nous a donc offert un programme Beethoven somptueux, avec une sonate de jeunesse au début, la Waldstein ou l'Aurore selon les titres, qui est quand même, on peut dire, un des morceaux les plus interprétés sur les scènes du piano, hein, parce que c'est un peu une sonate qui fait briller tous les pianistes, mais il l'a joué avec une sensibilité très particulière, justement en évitant souvent le côté très brillant que peut avoir la Waldstein et l'Aurore. Mais vraiment, l'apogée de ce concert a été l'opus 111.
Une fois de plus, la fameuse 111.
Voilà, la 32e sonate, la dernière sonate de Beethoven, qui pour moi, avec la sonate de Liszt et l'Himalaya du piano, c'est vraiment deux sonates totalement géniales. C'est deux sonates qui me frappent énormément, parce que ce sont deux sonates, et je ne sais plus qui était le musicologue qui avait écrit ça, ce sont deux sonates qui nous font croire qu'on peut toucher le ciel. Et là, ce qu'a fait Nicolas dans l'Arietta, c'est-à-dire que le temps a été littéralement suspendu. À la dernière mesure, il a laissé un silence d'un peu plus d'une minute et demie sans qu'il y ait un seul souffle dans le cloître. Les gens étaient littéralement suspendus. Et ça a été un moment, moi j'étais ému aux larmes, c'est peut-être la 100e fois que j'écoute cette sonate, mais c'était absolument prodigieux. Ce qu'il a fait était prodigieux, et dans le cadre des Jacobins, évidemment, c'est une sonate qui résonne un peu particulièrement quand on a la voûte étoilée des Jacobins au-dessus et que les derniers accords de cette arietta incroyable. J'adore la réflexion de Beethoven, qui en avait dit « mais pourquoi il n'y a pas de troisième mouvement ?» Et il avait dit « j'ai pas eu le temps de l'écrire ». C'était une boutade, parce qu'on ne peut rien...
On peut rien ajouter.
Et même... Il a, par amitié, il a donné un bis, il a donné un bis de Bach, mais personnellement, j'aurais préféré qu'il ne donne pas de bis. Je n'ai plus envie d'écouter quoi que ce soit après la séance, comme après la séance de Liszt. Ce sont des monuments tellement énormes qu'il faut rester avec. Moi, je me suis endormi avec, hein. Je l'ai eu dans la tête toute la nuit, cette sonate.
Oui, alors Anke Felek l'a joué cet été à Rocamadour, elle a terminé son concert par l'opus 111. Évidemment, le public réclamait un bis, elle dit non, après la 111, il n'y a pas de bis, il n'y a que le silence.
Mais oui, mais
voilà,
oui.
C'est l'éternité.
C'est l'éternité, c'est l'éternité. C'est l'éternité bienfaisante.
Absolument.
C'est l'éternité
apaisée.
C'est un message de... Enfin, c'est Beethoven. C'est venu du cœur qu'elle aille au cœur. C'est un message d'amour universel, de bienveillance, de fraternité. Enfin, c'est un personnage sublime, comme Liszt d'ailleurs. Pour moi, ce sont les deux musiciens dont la vie et la musique sont en harmonie parfaite, quoi.
Alors, on ne va pas en dire plus. Justement, on va passer au concert suivant. C'était dès le lendemain. Le public toulousain avait rendez-vous avec l'enfant du pays, Bertrand Chamaillou, de nouveau programmé dans un festival qu'il a quasiment vu débuter en concert. Pour Arnaud Péjot, il avait quoi, 15-16 ans lorsqu'il s'est produit pour la première fois avec...
On en parlait hier dans l'après-concert. Il est venu à 15 ans la première fois jouer. Mais j'aime beaucoup parce que Bertrand nous avait fait un texte, je crois que c'était pour le 30e anniversaire, il nous avait fait un texte pour le programme et en disant que, en fait, son deuxième conservatoire, ça avait été piano jacobin, puisque le premier concert qu'il est venu écouter, je crois que c'était, il avait 7 ans avec ses parents. Et donc, c'est quelqu'un pour nous qui est un ami, on l'a amené en Chine, on a fait des tournées extraordinaires en Chine avec lui, on a fait énormément de choses avec Bertrand. Et c'était une grande joie de l'accueillir en ce contexte très, très particulier, évidemment.
Et en plus, bon, il est toulousain et il fait mentir L'aphorisme, nul n'est prophète dans son pays.
Ah, oui, c'est vrai.
Parce qu'il est adoré à Toulouse.
C'est vrai. Mais on aurait pu doubler le concert. On en parlait tout à l'heure. On aurait pu doubler le concert parce que malheureusement, nous sommes limités à 250 personnes, ce qui est quand même très peu. Donc, on est complet presque tous les soirs, j'allais dire malheureusement. Mais oui, c'est quelqu'un qui a fidélisé un public et en plus qui a une empathie avec le public qui est formidable.
Voilà, Bertrand Chamaillou, qui est revenu régulièrement à Piano Jacobin depuis cette première fois lorsqu'il avait 15 ans. Il a fait la grande carrière internationale que l'on sait. Mercredi soir, il a joué un programme où l'on trouvait deux de ses compositeurs de prédilection, Franz Liszt et Maurice Ravel, auxquels il avait adjoint Claude Debussy, du grand, du beau piano. Quelles heures a-t-il joué précisément, Serge Chosy ?
Oui, alors d'abord, c'était un programme magnifiquement établi, bien équilibré, vraiment bien fait. Avec tout d'abord du Debussy, donc avec trois pièces de Debussy, extrait du livre 1 des préludes, La fameuse cathédrale engloutie, avec des crescendo splendides et des échos de cloches magnifiques qu'il a su susciter dans son jeu. Puis l'énigmatique La terrasse des audiences du clair de lune. Et puis enfin le feu d'artifice. Bon, alors ça, c'est vraiment très brillant.
Qui portait bien son nom hier.
Ah, complètement, complètement. C'était à la fois explosif et c'est un peu, je résumerai sa participation à ce récital. Il y avait à la fois l'énergie, les couleurs, la poésie et l'éclat. Enfin, il y avait tout ça bien équilibré, donc c'était vraiment magnifique. Donc, toute cette première partie était consacrée à Debussy. Et la deuxième partie, à Ravel, avec les miroirs, avec les cinq pièces des miroirs, donc Noctuel, Oiseau triste, Une barque sur l'océan, Alborada de Gracios et La vallée des cloches. Et j'avoue avoir été complètement ébloui par Une barque sur l'océan. Il a joué ça, vraiment, non seulement on avait cette sensation de houle, mais en plus, le côté dramatique, dans La barque sur l'océan, il y a une tempête, il y a un naufrage probablement. Et on voyait tout ça à travers son interprétation.
Il y a un danger en tout cas.
Ah oui. Non, c'est vraiment magnifique. Tous ces miroirs, ces cinq pièces, donc comme ça enchaînés dans un silence d'ailleurs. Magnifique. J'ai admiré le silence de la salle ce soir-là. Il n'y a pas eu de tout, pratiquement. Peut-être que le masque aide à ça.
Non, allez, ne parlons plus des masques, mais malheureusement, je crois que c'est vrai.
Donc,
il y a généralement, Serge, très peu de tout au Jacobin.
Oui, mais ça arrive.
Un peu partout, très peu.
C'est le cas de le dire. Alors, là aussi, Paul Arnaud parlait du silence après l'Arietta. Et ben là, il y a un silence incroyable à la fin du miroir. Mais un silence qui a duré. La résonance du piano, dans l'acoustique de la salle capitulaire en particulier, ça avait un côté magique un peu. Donc voilà, ça c'était la première partie du concert. Et en deuxième partie, ben, il a fait appel à Liszt. Et Liszt avec trois extraits, disons. Tout d'abord, les Jeux d'eau à la Villa d'Est. Alors ça s'impose, hein. C'est vraiment à la fois brillant, lumineux, liquide, bien sûr. Et puis, la berceuse. Alors qu'on ne joue pas si souvent, cette berceuse.
Non.
Et vraiment, il en a fait une pièce d'une sensibilité, d'une poésie extraordinaire. Et il a terminé avec Venezia e Napoli, bon, les trois pièces, Gondoliera, Canzone et Tarantella, qui, alors la Tarantella, là, c'était l'éblouissement, évidemment, incroyable, il a été ovationné, debout, enfin, ça a été un véritable triomphe, un tel triomphe qu'il a dû revenir.
Du bisser, rebisser, re-rebisser.
Oui, trois bis, donc, on a eu droit à trois bis. Le premier, il fallait un peu calmer les choses après la tarentelle, il a joué la pavane, la fameuse pavane pour une enfant défunte de Ravel. En deuxième bis, c'était cette fameuse étude en forme de valse de l'opus 52 de Saint-Saëns, qu'il a joué avec toute l'élégance que Saint-Saëns réclame. Et enfin, alors, j'avoue que là, j'ai découvert complètement une courte pièce qui fait partie du disque qu'il va sortir, d'un enregistrement qu'il va sortir. Une pièce de Janáček, mais pas des plus courantes. Hein. Une pièce qui s'appelle Good Night, tout simplement, Bonne Nuit, et qu'il a joué avec un détachement, une finesse aussi tout à fait impressionnante.
Vraiment un programme tout en couleur, en lumière et en contraste. Hein. Par un pianiste, bon, il aura 40 ans l'an prochain, hein. Bertrand Chamaillou, il est en pleine maturité, ah, là, oui. Et je pense qu'on peut dire qu'il est au sommet de son art, sans doute.
Oui, oui, absolument.
Enfin,
oui,
il nous réserve encore quelques belles...
Oui, mais
quelques belles ascensions.
Le sommet va durer longtemps.
Oui, voilà, exactement.
Après le sommet, il y en a d'autres, vous avez raison. Nous allons bien sûr faire entendre Bertrand Chamaillou dans cette émission, et comme les vacances viennent tout juste de se terminer, je propose qu'on l'écoute dans une interprétation d'une des 5 pièces des miroirs de Maurice Ravel, Une barque sur l'océan. Vous allez être content,
bravo,
Serge. J'espère que ça va rappeler de bons souvenirs à beaucoup d'entre vous. Bah, imaginez une barque bercée par les vagues sur un océan qui scintille sous le soleil. Une barque sur l'océan, pièce extraite des Miroirs de Maurice Ravel, une des œuvres jouées par Bertrand Chamaillou lors du récital qu'il a donné mercredi soir au cloître des Jacobins. Nous allons conclure cette première partie d'émission avec le pianiste toulousain, mais nous allons continuer avec Piano Jacobin et Paul Arnaud Péjouan dans quelques secondes. Petite pause et l'on se retrouve avec les invités de ce numéro. A tout de suite.
Mélomanie. L'agenda.
Et l'agenda des jours à venir, c'est encore Piano Jacobin, dont la programmation se poursuit donc jusqu'au 27 septembre, avec encore beaucoup de grands musiciens, de beaux programmes à découvrir d'ici là. Il y a tout de même une chose que l'on n'a pas abordée avec vous jusqu'alors, Paul Arnaud Péjouan, c'est votre décision de maintenir le festival cette année. Décision qu'il a forcément fallu prendre il y a quelques mois, alors qu'on ne savait pas comment allait évoluer la crise sanitaire. Est-ce que vous avez envisagé, avec Catherine Dargoubet, d'annuler l'édition 2020 ?
Non, et je voudrais rendre un hommage particulier à Catherine, parce qu'elle était encore plus déterminée que moi. Même donc au mois d'avril, au plus fort du confinement, on avait des entretiens téléphoniques quotidiens, évidemment. Et elle m'a dit, coûte que coûte, on va maintenir le festival, on va voir ce qui va se passer, mais il faut absolument le maintenir. Et nous avons surtout eu la chance d'avoir un mécène extraordinaire, qui est notre mécène depuis 37 ans maintenant, qui est la Fondation BNP Paribas, dont le secrétaire général nous a assuré que même si le festival était en difficulté, il maintenait la participation de la Fondation BNP Paribas et de BNP Paribas Occitanie au festival, ce qui pour nous était quand même une garantie de sécurité importante. En même temps, nous avons la chance, comme d'autres festivals, que les collectivités territoriales sont restées fidèles à nos côtés, la ville de Toulouse, le conseil départemental, le conseil régional, et je tiens à les remercier. Et je crois que tous les festivals de France qui ont la chance d'avoir ces collectivités à leur côté sont conscients que dans cette année particulièrement, ça a été extraordinaire de pouvoir compter sur leur soutien. Vous savez à quel point j'ai été engagé dans l'administration culturelle et les politiques culturelles en France, puisque j'ai dirigé un master à Toulouse Capitole sur l'administration culturelle pendant pratiquement 10 ans. Et je n'arrêtais pas de le dire, nous avons une chance extraordinaire, on est un pays unique. Alors c'est sûr que ça va être une année terrible pour la culture cette année, mais malgré tout, de tous les pays d'Europe, moi j'ai les amis en Espagne, j'ai les amis en Italie, je ne parle même pas de l'Angleterre. Bon, l'Allemagne est un cas à part, parce qu'en Allemagne, la musique, je dirais qu'elle est consubstantielle, elle est génétiquement liée à la ville et des habitants. Mais à part l'Allemagne, on est le seul pays au monde qui a protégé autant ses artistes et ses musiciens. Il reste des problèmes énormes. Je pense que malheureusement, cette crise sanitaire va faire des dégâts collatéraux très graves. Et je pense surtout aux jeunes musiciens qui lançaient leur carrière et qui voient tout d'un coup cet élan brisé.
Beaucoup y ont renoncé, du coup.
C'est extrêmement difficile parce que un jeune qui se lance, qui n'a pas de concert, on va pas rentrer dans le détail des intermittences, etc., mais donc qui n'a pas d'historique, il est totalement démuni. Et ceux qui n'ont pas la chance d'avoir, entre guillemets, un parachute professoral, de conservatoire, etc., ils sont obligés, au moins temporairement, d'envisager peut-être d'autres activités.
C'est dramatique.
C'est dramatique. C'est dramatique. C'est pour ça que je pense que dans la gestion de la crise sanitaire, il faut quand même faire passer des messages positifs. Moi, j'ai mis sur tous les réseaux sociaux hier que l'air était plus frais au couvent des Jacobins qu'ailleurs, parce que l'air circule. Et je voulais même ajouter que c'était presque... On était sur les cimes musicales, mais ça aurait été un peu prétentieux. Donc j'ai évité ça, mais j'y pensais. Mais il faut dire, n'ayez pas peur de venir au cloître, n'ayez pas peur de venir aux Jacobins. En plus, nous savons, et ça Serge l'a vérifié, le public classique est un public respectueux des procédures. Ce n'est pas un public d'aventuriers qui va se livrer à des fiestas inopinées, etc. Donc on l'a vu hier. Alors c'est vrai que c'est un peu triste de voir tous ces gens masqués en même temps. Mais je veux dire, ils sont tellement heureux d'être au concert que...
Voilà, on voit leur bonheur dans les yeux.
Mais bien sûr, bien sûr. À la sortie surtout. Les gens étaient sur un petit nuage, autant avec le concert d'hier que celui d'avant-hier. Je pense que ça va continuer. Donc, il faut quand même rassurer le public parce que, hélas, on est très contents parce que nous sommes pratiquement pleins tous les soirs, mais avec une jauge réduite de moitié, ce serait quand même un comble. Mais il faut rassurer le public et dire, n'ayez pas peur de venir au cloître. C'est un lieu qui est... au niveau même de la crise sanitaire, peut-être un peu plus privilégié que d'autres.
Voilà, c'est un lieu ventilé.
Ventilé, en permanence.
C'est un argument.
Bien sûr.
Et puis c'est un lieu magnifique où on entend la plus belle des musiques. Oui, il aurait été dommage quand même qu'il y ait une année blanche, surtout l'année des 40 ans du festival.
41e
édition, mais 40 ans d'existence, non ?
Exact, oui. Alors c'est toujours l'histoire du zéro. Mais comme je suis mauvais en mathématiques, je dis 41.
Le festival a 40 ans, mais c'est la 41e édition. Et si l'on reprend le fil de la programmation de cette 41e édition, on trouve à la date du mardi 15 septembre un concert donné par un tout jeune pianiste français, Jérémy Moreau. Je crois que ça sera une première pour lui aux Jacobins. Présentez-nous ce jeune talent issu d'une grande fratrie de musiciens.
C'est vrai que c'est une grande fratrie de musiciens. Il a un frère violoncelliste, Edgar Moreau, qui fait une carrière absolument magnifique. Je crois qu'il a une sœur qui est violoniste,
absolument très bonne. Raphaël.
Voilà.
Il y a un trio qui est tout près, là.
Ah ben, le trio.
Le futur trio Moreau.
Le trio, il joue d'ailleurs. Je pense qu'il ne joue pas encore officiellement sur les scènes musicales, mais enfin, en tout cas, il est constitué. C'est une famille passionnante. Et on est heureux d'accueillir Jérémy Moreau, qui est à ses débuts de concertiste, qui est un tout jeune pianiste. Ça fait partie aussi de notre cap artistique. Parfois, je relis les programmations des 40 dernières années. On a présenté les plus grandes stars du piano, les plus grandes légendes du piano, y compris des légendes qui ont été, je pense, exclusives aux Jacobins. Je pense par exemple à Léon Fleischer qui a disparu, cet été. Je pense à Gorgui Chandor. Je pense à Firkusny, qui sont des pianistes qui ne se sont produits qu'aux Jacobins. Alors, il faut souligner le mérite extraordinaire qu'on a eu avec Catherine d'inviter des légendes. Je pense à Lady Moralimpani, qui est venue, unique concert. Enfin bon, nous avons comme ça...
Rarissime.
Mais rarissime. C'est un peu prétentieux de le dire, mais quand on relit les programmations de Jacobin, on se dit quand même que c'est un festival qui rentre dans l'histoire du piano. Rappelons-le aussi, c'est le festival de piano le plus ancien de France.
Oui, avant la Roque d'Enterreau.
Avant la Roque d'Enterreau, oui, oui. Je sais que ça fait grincer quelques dents, mais c'est toujours bon. C'est un plaisir personnel que je rappelle à chaque fois. Et bien évidemment, on a toujours, toujours privilégié et présenté au public les jeunes talents. On a présenté le 10, Yoav Livanon, jeune Israélien de 16 ans, qui fait son premier concert en France à Piano Jacobin, qui déjà a une notoriété, enfin on va dire qu'il y a un buzz international extraordinaire. González Boarrasan, le jeune Cubain dont tout le monde parle, qui vit entre Cuba et la France, heureusement, puisque nous pouvons l'avoir, puisque cette année, on a une programmation de jazz qui est amputée, puisqu'on devait avoir un très grand pianiste de jazz cubain qui devait venir, évidemment, qui est bloqué par le confinement à Cuba. Voilà.
Donc, Jérémy Moreau, frère d'Edgar et de Raphaël. Jérémy Moreau, qui a été l'élève de Denis Pascal au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, et qui aujourd'hui est à l'Académie Barenboim Saïd à Berlin, dans la classe d'André Achif. Il a de bons maîtres, ce garçon. Voilà. À quel programme va-t-il jouer mardi prochain, Serge ?
Eh bien, apparemment, il va jouer du Mozart avec la sonate en mi bémol, une des plus célèbres quand même, que chez le 333. Hein. Et puis, trois clavierstücke de Schubert, de Deutsch 946, donc tardif. Hein. Et puis, la fameuse troisième sonate de Brahms, qui est un sacré morceau.
Hein. Oui, on peut dire que...
Ah oui, bah oui, il risque là.
Il faut de l'enthousiasme.
Oui, oui, exactement.
Pour un jeune. Mais c'est intéressant. Moi, j'aime bien voir des jeunes. C'est comme Yoav Livanon qui, entre guillemets, va gravir la sonate en si de Liszt. Ben, je trouve que c'est formidable à 16 ans. Alors, évidemment, on peut se dire pourquoi on joue ça à 16 ans. Mais c'est intéressant de s'attaquer justement avec une soif de musique, un appétit de musique extraordinaire à ces œuvres colossales.
On va écouter maintenant Jérémy Moreau, jeune pianiste au talent déjà bien affirmé. Il interprète ici le premier Klavierstück D946 de Franz Schubert. Le Klavierstück D946 numéro 1 de Franz Schubert, joué par Jérémy Moreau, le jeune pianiste français, est en concert au Quatre des Jacobins mardi 15 septembre à 20h, où il va interpréter un programme d'œuvres de Mozart, Brahms et donc Schubert. Le lendemain, toujours à 20h au même endroit, c'est un pianiste suisse qui est programmé, Francesco Piemontesi. Lui est de la même génération que Bertrand Chamaillou, c'est un musicien qui a donc déjà une belle carrière et une solide discographie derrière lui, ancien élève d'Alfred Brendel et de Murray Peraya. Alors je crois qu'il est déjà venu à Piano en Valois, mais je ne crois pas qu'il ait déjà été programmé au Jacobin.
Il n'a pas été programmé au Jacobin, par contre, il a fait partie de nos pianistes que nous avons présentés en Chine. Alors, je n'ai pas l'année précisément en tête, mais je pense que c'était il y a 8 ans. Et on a fait, je sais, 5 villes de Chine avec Francesco Piemontesi.
Alors lui, quel programme va-t-il jouer, ce pianiste suisse ?
Eh bien, il va jouer alors l'œuvre d'un compositeur peu connu, Lachenmann, avec des variations sur un thème de Schubert, et puis du vrai Schubert, cette fois, la sonate en ut mineur, Deutsch 958, et puis enfin du Liszt avec la première légende de Saint-François d'Assise, la prédication aux oiseaux et de nouveau la sonate en si mineur qui a vraiment beaucoup de succès cette année.
Oui, mais c'est intéressant de l'écouter justement.
Ah, bien sûr.
À peu de temps d'écart.
Sous différents doigts.
Sous différents doigts.
Concert suivant au Jacobin, vendredi 18 septembre, avec le pianiste coréen Sun Wook Kim, qui va jouer les trois dernières sonates que Beethoven a composées pour le piano, autrement dit, les fameuses opus 109, 110 et 111, ou si vous préférez, les 30e, 31e et 32e sonates. En cette année 2020, on fête donc les 250 ans de la naissance du grand compositeur allemand. Il était sans doute inenvisageable de ne pas lui dédier une soirée entière. En plus, bon, on l'a bien compris, Paul Arnaud Péjouan, c'est un compositeur très très cher à votre cœur, Beethoven.
Mais évidemment. Et là, on disait, à propos de la sonate en si, on va avoir la chance d'écouter l'opus 111 à 10 jours d'écart avec un pianiste coréen. Lui, c'est la deuxième fois qu'il vient au Jacobin, Sun Wook Kim, couronné par de très, très grands prix. Alors, on dit souvent que les Asiatiques ont une approche un petit peu scientifique,
mécanique,
de la musique.
Mécanique, souvent.
Ça, c'est très méchant.
Certains disent qu'ils sont un jeu mécanique. Voilà, bon.
Mais là, c'est vraiment l'illustration, en tout cas la démonstration du contraire. Sun Wook Kim, c'est un personnage extrêmement attachant. Les Coréens sont des personnages. Il y avait un film coréen qui m'avait beaucoup marqué. Moi, c'était Ivre de femme et de peinture. Et donc, ce sont des méridionaux du Sud, des grands épicuriens. Et je me souviens, lors de sa première venue à Toulouse, de la passion pour les vins français de Sun Wook Kim, qui avait une connaissance quasi encyclopédique, enfin extraordinaire. Et ça montre justement que c'est, entre guillemets, ce sont des personnes qui ont embrassé la culture européenne, embrassé la culture occidentale avec passion et enthousiasme. Magnifique concert, je pense, hein, parce que les trois dernières sonates de Beethoven,
ah oui,
quand
c'est
même,
quelque chose.
C'est réservé à, quand même à des pianistes qui déjà...
Qui assument.
Voilà. C'est quand même un énorme challenge pianistique.
Sun Wook Kim, donc, le vendredi 18 septembre, et le lendemain, samedi 19, toujours au cloître à 20h, il va y avoir un intermède jazz avec une carte blanche donnée au pianiste Thomas Enko, qu'on ne présente plus guère à Toulouse parce qu'on y entend régulièrement depuis des années. Et le jazz, c'est maintenant une tradition bien ancrée à Piano Jacobin.
Alors malheureusement, cette année, nous avons renoncé à la moitié de nos concerts. Et nous avions un focus spécial sur Cuba cette année, puisque nous avons fait un partenariat informel avec Cuba, notamment avec l'ambassade de France à Cuba, qui a souhaité associer Jacobin au mois français de la culture à Cuba. Nous avons envoyé l'an dernier, dans l'édition de Cuba Classique, le pianiste François Dumont, quand même, qui était aussi un extraordinaire pianiste, qui a joué souvent au festival. Et on devait accueillir donc deux jazzmen cubains, qui malheureusement sont restés pour des causes de confinement bloqués à Cuba, ce qui fait que nous n'avons qu'un concert de jazz cette année, qui malheureusement est complet. Alors là, on aurait pu vraiment doubler le concert.
Bah, Thomas Enko en général, oui.
Mais surtout, puis je pense qu'il y a le phénomène de samedi soir qui a aussi joué.
Oui.
Voilà, mais donc on est très heureux d'accueillir à nouveau Thomas, et on espère, et c'est prévu, que nous reprogrammerons donc nos amis cubains l'année prochaine, car ce sont des musiciens absolument merveilleux.
Et puis ce même samedi 19 septembre, mais à 21h, à l'Envol des Pionniers, il y a un concert délocalisé hors les murs, comme on dit, qui va être donné par Jean-Baptiste Fonlup. Alors ça, c'est un pianiste qui est vraiment un fidèle de Piano Jacobin, et auquel vous êtes fidèle depuis longtemps maintenant. D'ailleurs, je me demande si on ne pourrait pas parler plutôt d'amitié que de fidélité.
Ben, j'en parlais avec Nicolas Angelich, parce que c'est un très grand ami de Nicolas Angelich. Ils sont même à une époque, entre guillemets, je crois, étaient colocataires à Paris du même appartement. Et Nicolas me disait, c'est un pianiste pour lequel j'ai une admiration incroyable, et on s'étonnait que par rapport à son immense talent, il fasse une carrière aussi peu médiatique. Donc moi, c'est un ami. Avec mon autre festival Bordeaux, l'Esprit du Piano, j'ai produit deux de ses disques dans la collection Esprit du Piano, qui sont absolument somptueux. Dans un live à l'église Notre-Dame, j'ai des personnes qui m'ont dit « c'est pas possible, ce n'est pas un live, il y a eu des montages ». Il n'y a absolument aucun montage. Et c'est un immense musicien. Alors le problème de Jean-Baptiste Fonlup, c'est sa réserve. C'est un garçon extrêmement réservé. Il a 40 ans aussi, et il fait ce métier, je dirais, un peu comme un moine soldat. Et je lui dis, maintenant, il faut peut-être sortir du bois, faire des photos, faire des interviews, faire, comme on dit, une storytelling. Donc, on le soutient énormément. En plus, on le présente dans un endroit que j'ai découvert l'an dernier avec un très beau concert de William Lachoumia, qui est l'Envol des Pionniers. Et moi, j'ai été séduit. On travaille depuis très longtemps avec les équipes de la Cité de l'Espace, qui maintenant gère l'Envol des Pionniers. Et c'est vrai que voir ce piano de concert aligné avec le biplan de la TECOR, qui est un original.
C'est un vrai.
C'est pour moi quelque chose d'extraordinaire. Et j'ai une passion personnellement pour l'Aéropostale et pour les Didier Dora, Syntex, enfin toute cette équipe merveilleuse qui quand même fait l'histoire de Toulouse et de l'humanité en particulier. Donc ça, pour moi, c'est un rendez-vous formidable, ce rendez-vous entre Jean-Baptiste et ce lieu.
À noter que ce concert est gratuit.
Ce concert est gratuit, sur invitation, et il faut vite se dépêcher parce que l'an dernier, ils ont refusé, je crois, plus de 200 invitations, donc ça part très vite.
Alors, je précise qu'il faut réserver auprès de l'Envol des Pionniers.
Voilà.
Si vous voulez assister à ce concert, on va y retrouver Franz Liszt avec notamment l'Italie et la deuxième partie des années de pèlerinage, et Robert Schumann et son Fantasiestücke Opus 12. Lundi 21 septembre, vous avez programmé une valeur sûre, et même très sûre, du piano français, Pierre-Laurent Aymard, qu'on a lui aussi souvent entendu à Toulouse, que ce soit avec l'Orchestre du Capitole ou à Piano Jacobin, peut-être moins souvent depuis quelques années. On aura d'autant plus de plaisir à le retrouver, et lui ne va pas jouer un programme tout Beethoven, mais un programme tout Bach. Il va jouer les pièces du livre 2 du Clavier bien tempéré, une grande œuvre pour un grand pianiste.
Oui, c'est un résumé parfait.
Rien à ajouter.
C'est un programme d'une grande exigence. Hein. Mais Bach, pour moi, c'est toujours pareil. Ça fait toujours, on a toujours un peu peur de prendre un programme intégralement consacré à Bach. Et puis, quand on est parti, on se dit...
On s'aperçoit que c'est un monde, la musique
de Bach. Voilà, exactement. Et on se dit qu'on fait un voyage merveilleux, unique. Et ça fait partie des expériences. Ça, c'est la spécificité des festivals, c'est de pouvoir proposer des expériences de ce type. Et on a le public qui nous suit sur ce type de voyage.
Qui vous fait confiance, bien sûr. Le concert suivant, alors là, ce sera certainement un des points d'orgue de cette 41e édition. Il est d'ailleurs donné à la Lograin, mardi 22 septembre à 20h. On va y retrouver une légende du piano, je crois qu'on peut employer l'expression, en la personne du pianiste croate Ivo Pogorelic. Pogorelic, c'est un son, c'est une technique exceptionnelle, et je crois qu'on peut dire sans exagérer qu'il recrée véritablement les œuvres qu'il joue. Assurément, un des très très grands des 40 dernières années, c'est un immense musicien.
Oui, personnellement, j'ai une immense admiration pour Pogorelic. Je l'ai invité... Dans deux autres festivals dont je me suis occupé. J'ai eu de multiples occasions de discuter avec lui. C'est un homme d'une exigence incroyable. Beaucoup pensent qu'il est presque autiste, tellement il est dans son monde musical, mais je ne crois pas qu'il soit autiste. Je pense que c'est une façon pour lui de préserver cette intégrité, cette relation absolue qu'il a avec la musique et qu'on ressent dans ses concerts. Parce que ce sont des concerts, évidemment, qui interpellent le public. La sonate numéro 3 de Chopin, la dernière fois que je l'ai entendue, elle faisait 10 minutes de plus que les enregistrements habituels. Donc, il faut être préparé à écouter des interprétations qui réellement pose au public le problème de l'interprétation. Et personnellement, je ne suis pas musicologue, mais je me souviens qu'à la répétition, je vois la partition de la sonate, et j'étais avec un ami qui, lui, est un très bon pianiste, et je demande à Ivo Pogorelic, mais la partition était annotée.
Il y avait
presque autant de notes personnelles d'Ivo Pogorelic que de notes de Chopin. Et là, il explique des choses qui me passaient totalement au-dessus de mes compétences musicales, mais il voit des intentions, il recherche tout. Enfin, c'est un passionné de l'âme des compositeurs. Il essaie vraiment de rentrer et de réinterpréter. Moi, j'espère qu'un jour, il réalisera son rêve d'enregistrer, peut-être pas l'intégrale, mais au moins 3 ou 4 sonates de Beethoven, parce que c'est une approche de la musique qui est totalement personnelle, totalement particulière, qui peut diviser le public.
Ah ben, il est controversé.
Mais bien sûr. Mais ça fait...
Forcément.
Mais bien sûr.
Mais du bien.
Alors... Il va jouer le Gaspard de la nuit, qu'il a rendu mondialement célèbre.
Il avait fait un enregistrement célèbre.
Et là, c'est vrai quand même que Scarbo par Pogorelic, pour moi, c'est pas simplement une expérience musicale. C'est une expérience physique, presque. C'est quelque chose qui interpelle, quoi. Alors, concert à la Lograin.
À la Lograin. Donc là, a priori... Il reste des places encore pour un petit moment,
absolument.
Mais il ne faut peut-être pas non plus en perdre trop, parce qu'il faut se décider assez rapidement. Donc il y aura Gaspard de la Nuit, Ravel, la sonate numéro 3, opus 58, le prélude, opus 45, et la barcarolle, opus 60 de Frédéric Chopin. On peut s'attendre à des interprétations, encore une fois, très personnelles de ces œuvres archi-connues par les amoureux du piano. Voici par exemple une version de la sonate numéro 3, opus 58 de Frédéric Chopin, le 4e mouvement sous les doigts d'Ivo Pogorelic. le quatrième mouvement de la sonate numéro 3 plus 58 de Frédéric Chopin, interprété par Ivo Pogorelitch, qui sera donc en concert mardi 22 septembre à 20h à la Lograin, avec un programme Chopin-Ravel. Il va rester deux concerts en suite. Il y a celui de David Cadouche le 23 septembre à 20h au cloître des Jacobins. Alors lui, il va jouer un programme très varié d'œuvres de Chopin, Farinck, Clara Schumann, Chabrier et Saint-Saëns. Et puis donc concert de clôture dimanche 27 septembre à 16h, délocalisé lui aussi à Altigone, la salle de Saint-Orens de Gameville. Et c'est un autre jeune pianiste français qui va le donner, Jean-Michel Kim. Lui va jouer des pièces de Schubert, Liszt, Stravinsky et Tsuchida. Alors on connaît bien David Cadouche à Toulouse, un pianiste dont la carrière a vraiment décollé ces dernières années. On connaît moins Jean-Michel Kim, ancien élève de Jacques Rouvier au CNSM de Paris, et c'est un des brillants jeunes trentenaires du piano français, Paul Arnaud Pévenon.
Oui, absolument, et on est en plus très heureux parce que c'est le début d'une collaboration avec l'École Normale de Musique, qui est une école extraordinaire, notamment qui a permis à Alexandre Kantorov d'être le premier Français à gagner le prix de Tchaïkovski, puisque c'est Rena Chervetskaya, qui est professeure à l'École Normale de Musique, qui a permis, donc, par son enseignement extrêmement avisé, audacieux même parfois, d'avoir un Français qui, pour la première fois, gagne le premier prix du concours de Tchaïkovski. Et elle avait déjà son autre élève il y a 4 ans, Lucas de Bargue, qui n'a eu que le quatrième prix, mais qui a eu en fait, qui a créé la révolution auprès du public, qui est absolument idolâtré en Russie. Dès qu'il fait des tournées en Russie, c'est complet, 2 mois à l'avance, les gens s'arrachent les billets. Et c'est une femme d'exception qui est extraordinaire. Moi, j'ai eu la chance d'assister à des masterclass de Rena Chervetskaya quand elle fait jouer Tchaïkovski à ses élèves et qu'elle leur récite un conte russe pour comprendre la composition de Tchaïkovski, on mesure l'humanité et la culture de cette professeure de légende.
Allez, on va vous proposer encore du Chopin, cette fois-ci sous les doigts de David Cadouche, qui va jouer entre autres le 23 septembre la célèbre valse opus 64 numéro 2 du grand compositeur franco-polonais. On l'écoute tout de suite. C'était David Cadouche qui jouait la valse opus 64 numéro 2 de Chopin, une des pièces au programme de son concert du mercredi 23 septembre à 20h au cloître des Jacobins. Voilà donc pour la programmation de Piano Jacobin 2020, alors que se termine ce premier numéro de la saison de Mélomanie. Un grand merci à Serge Chosy de m'avoir assisté dans son animation avec le talent qu'on lui connaît, et un grand merci à Paul Arnaud Péjouan d'en avoir été l'invité d'honneur. Je rappelle que la 41e édition de Piano Jacobin se poursuit jusqu'au 27 septembre, avec encore une dizaine de très beaux concerts et de grands pianistes à écouter au cloître des Jacobins ou en d'autres lieux de la métropole toulousaine. Nous vous les avons tous annoncés. Pour avoir toutes les dates, les horaires, les lieux des concerts, les programmes et les musiciens, je vous invite à consulter le site du festival www.pianojacobin.com. C'est à cette adresse que vous pouvez aussi acheter et réserver vos places en ligne. Je signale également à Camon, un beau village de l'Ariège, la Fête des Roses et son festival de musique. Ils se tiennent ces samedis 12 et dimanche 30 septembre avec une très belle programmation musicale. Il existe une page Facebook pour vous renseigner et qui lui est dédiée. Vous pourrez y connaître tout le détail de ces deux journées. Tous mes remerciements à Christophe Aubry pour avoir assuré la régie technique de cette émission, dont le podcast est disponible et téléchargeable comme d'habitude dès maintenant sur le site de Radio Présence. Je rappelle que Mélomanie est diffusée les vendredis à 19h ainsi que les samedis à 10h. Merci encore de votre fidélité et très bonne rentrée musicale à tous.